Vous écoutez, on lit pour vous.
16 aliments qu'on ne devrait pas conserver au congélateur. Un texte de Devan McGuinness, paru le 25 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Votre congélateur est un appareil formidable pour planifier et préparer des repas pour les journées les plus remplies. Mais il n'est pas recommandé pour tous les aliments. Et le fait de conserver les mauvais aliments dans le congélateur peut mener à des repas de mauvaise qualité, voire à des risques pour la santé. Congeler ou ne pas congeler? Le congélateur est parfait pour conserver la nourriture que vous voulez consommer plus tard, mais ce ne sont pas tous les aliments qui peuvent être congelés en toute sécurité. Dans certains cas, la congélation pourrait gâter l'aliment au lieu de bien le préserver. Voici certains aliments que vous ne devriez pas mettre au congélateur. Le lait. Le lait conservé au congélateur peut se séparer en grumeaux et en eau lorsque décongelé, et plus il contient de gras, plus il se séparera. Il est sécuritaire à manger sous cette forme, mais il n'aura pas la consistance idéale pour le mettre dans votre café ou vos céréales du matin. Le site Taste of Home note cependant que si boire du lait décongelé n'est pas particulièrement appétissant, l'utiliser pour cuisiner et faire de la pâtisserie reste une option tout à fait viable. Tant que vous le congelez de la bonne manière, vous ne perdrez pas votre lait de trop. Les pommes de terre. Comme elles contiennent beaucoup d'eau, vous pourriez vous retrouver avec des pommes de terre molles et en bouillie après les avoir conservées dans le congélateur. Si vous cuisinez un repas contenant des pommes de terre et souhaitez congeler les restes, allez-y. Les pommes de terre cuites ne deviendront pas aussi molles que si vous les aviez congelées crues. Le changement de texture ne se remarquera pas trop dans des plats mijotés ou des ragoûts. Les aliments frits. Les aliments qui ont été frits perdront tout leur croustillant si vous mettez les restes au congélateur. Si vous prévoyez préparer un lot de croquettes de poulet maison, pour les conserver ensuite au congélateur, il vaut mieux ne pas utiliser la friteuse et opter plutôt pour la cuisson au four. Les œufs dans leur coquille. Il ne faut absolument pas mettre des œufs encore dans leur coquille au congélateur. L'eau contenue dans l'œuf se dilate lorsqu'il est congelé, ce qui peut faire craquer l'extérieur de sa coquille et le rendre vulnérable aux bactéries. Si vous voulez congeler vos œufs, cassez-les, battez-les pour bien les mélanger et rangez-les dans un contenant hermétique identifié à cet effet. Les fromages à pâte molle. Conserver des fromages à pâte molle au congélateur donnera le même résultat que le lait. Lorsque viendra le temps de les manger, vous vous retrouverez avec des grumeaux baignant dans l'eau, ce qui gâte souvent la texture d'aliments comme le fromage à la crème sûre et la ricotta. Les fruits et les légumes crus. Tous les fruits ou légumes contenant beaucoup d'eau, comme le céleri, le concombre, les salades et le melon d'eau, ne survivent pas à la congélation, parce que l'eau qu'ils contiennent forme rapidement des cristaux de glace. En d'autres mots, quand viendra le temps de les décongeler, vous vous retrouverez avec une bouillie immangeable. Les plats ou les desserts garnis de chapelure. Si vous avez fait cuire un succulent plat de macaroni au fromage garni d'une chapelure parfaitement croustillante, ne le mettez pas au congélateur. À l'instar des aliments frits, les plats et les desserts garnis de chapelure qui sont exposés aux températures froides du congélateur donneront une bouillie molle et pâteuse une fois décongelée. La viande déjà décongelée. Si vous sortez des côtelettes de porc du congélateur pour les faire cuire au souper, ne recongelez jamais celles de trop sans les avoir fait cuire d'abord. Les aliments congelés et décongelés peuvent attirer des bactéries potentiellement dangereuses plus vite que la viande qui n'a jamais été mise au congélateur. La meilleure chose à faire est de cuire la viande à la température appropriée et de la manger ou encore de la remettre au congélateur après l'avoir fait cuire, ce qui aura éliminé toutes les bactéries potentielles. Le yogourt. Côté santé, il n'y a rien de mal à mettre un contenant de yogourt dans le congélateur avant sa date d'expiration. La bonne nouvelle? Congeler du yogourt ne tue pas ses cultures vivantes et actives. La mauvaise? Lorsqu'il est décongelé, sa texture va perdre son aspect crémeux et devenir granuleuse. Aussi, si vous pensiez créer ainsi une friandise congelée prête à manger comme le yogourt glacé, attendez-vous à être déçu. Le yogourt régulier contient plus d'eau que ceux qu'on achète congelés, si bien que vous vous retrouverez avec un bloc glacé lorsque vous essaierez d'en prendre une cuillerée. Les pâtes. Consommer des restes de pâtes décongelées ne vous rendra pas malade, mais vous n'aurez pas nécessairement envie de les manger. Si la plupart deviennent de la bouillie lorsque vous les sortez du congélateur, vous aurez peut-être plus de chance avec des nouilles cuites al dente. Le riz. Si vous n'avez pas envie de manger des pâtes en bouillie, il en va probablement de même pour votre riz qui ne devrait pas non plus être conservé au congélateur. S'il n'est pas dangereux d'en consommer, le riz perdra toutefois son goût et sa texture. La mayonnaise. Si votre supermarché offre un gros rabais sur la mayonnaise, ne prévoyez pas faire des réserves et congeler les pots en trop. Lorsque la mayo dégèle après avoir été congelée, elle se sépare en prenant une texture agglutinée qui n'a rien d'appétissant. La sauce. Les restes de sauce sont délicieux, mais ne se conservent environ que 2 jours au réfrigérateur. Aussi, les sauces à base de crème ou de lait ne vont pas au congélateur. Elles se séparent et deviennent grumeleuses en dégelant. La sauce à base de farine peut toutefois être conservée jusqu'à 4 mois au congélateur, selon thekitch.com. Le glaçage. Le glaçage à base de blanc d'œuf n'est pas fait pour aller au congélateur. Il perdra son aspect mousseux et suintera, c'est-à-dire qu'il laissera s'écouler un liquide en dégelant. Composé aussi de blanc d'œuf, la meringue, elle, deviendra caoutchouteuse une fois dégelée. L'ail. Certains cuisiniers n'hésitent pas à congeler l'ail de trop avant que les gousses ne commencent à germer. Mais ils recommandent d'abord de tremper les gousses entières ou les gousses épluchées et réduites en purée dans une huile neutre. Le National Center for Home Food Preservation avertit toutefois que l'ail tend à prendre un goût fort et amer une fois qu'il a été congelé. Si vous essayez d'en faire congeler, sachez que son goût pourrait s'en trouver altéré. Certaines épices. L'ail n'est pas seul à mal supporter le congélateur. L'oignon et le paprika changeront de goût. Les assaisonnements au céleri goûteront plus fort. Et le curry développera un mauvais goût de renfermé, selon le National Center for Home Food Preservation. Tout comme l'ail, le poivre vert, les clous de girofle et l'imitation de vanille prendront un goût fort et amer pendant leur congélation. C'était 16 aliments qu'on ne devrait pas conserver au congélateur. Un texte de Devon McGuinness, paru le 25 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest.
Adapter son jardinage à la réalité des changements climatiques. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir. Avec l'arrivée du printemps, la fièvre du jardinage gagne en intensité. Tout jardinier amateur qui espère obtenir du succès avec ses plates-bandes, son potager et ses arbres fruitiers a avantage à connaître la zone horticole dans laquelle il se trouve afin de s'assurer de planter des variétés adaptées à sa région. Mais ces données pourraient changer au cours des prochains mois, car Ressources naturelles Canada travaille sur une nouvelle carte des zones de rusticité des plantes afin de mieux refléter la réalité du réchauffement climatique. Dans les années 2000, l'île de Montréal était située en zone 5B. En 2014, à la faveur d'une révision des zones de rusticité des plantes, elle est passée à la zone 6A. Rimouski a pour sa part sauté de la zone 4A à la zone 5A. Ailleurs, cet indicateur n'a pas changé, comme à Gaspé qui s'est maintenu dans la zone 4A. Cette carte permet aux jardiniers de savoir quelles plantes résisteront mieux aux rigueurs de l'hiver ou bénéficieront d'une période de croissance suffisante dans leur région. Pour déterminer ces zones, Ressources naturelles Canada se base sur plusieurs critères évalués sur une période de 30 ans. Le ministère tient compte notamment de la moyenne mensuelle de la température minimale quotidienne du mois le plus froid, du nombre annuel moyen de jours sans gel, au-dessus de 0 degré centigrade, de la quantité de pluie de juin à novembre, de l'épaisseur maximale du couvert neigeux et des rafales maximales. La première carte de rusticité des plantes au Canada a été publiée en 1967 avant d'être mise à jour en 2000, puis en 2014. De manière générale, les cotes de rusticité des plantes ont augmenté dans la plupart des régions du Canada depuis la carte originale de 1967, indique John Pedler, biologiste au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Les changements les plus importants ont eu lieu dans l'ouest et le nord du Canada, jusqu'à 3 zones à certains endroits. Au Québec, les modifications ont été moins importantes. Le réchauffement climatique n'est pas étranger à ces changements de zone qui continueront d'évoluer. Selon John Pedler, toutefois, les écarts observés entre les différentes régions du Canada conservent une part de mystère. On ne sait pas exactement pourquoi l'ouest du Canada connaît un changement climatique plus rapide que l'est, mais les études laissent penser que cela est attribuable à l'intensification du phénomène El Niño, qui tend à entraîner un réchauffement plus important dans l'ouest et à l'affaiblissement du vortex polaire qui apporte de l'air froid dans l'est du Canada, explique l'expert. Le temps est maintenant venu de réviser cette carte et Ressources naturelles Canada s'est attelé à la tâche, promettant une nouvelle carte d'ici l'hiver prochain en prévision de la saison de jardinage de 2025. Gestion du risque. L'évolution du climat témoigne toutefois d'un réchauffement inquiétant. La nature est déréglée, admet Bertrand Dumont, horticulteur, balado-diffuseur et auteur de nombreux ouvrages sur l'horticulture. Au fil des décennies, le réchauffement du climat a fait en sorte qu'il est désormais possible de planter des variétés autrefois jugées non rustiques. Il y a 25 ans, par exemple, le buis était vendu dans les centres jardins comme une plante annuelle. Aujourd'hui, on en voit partout, indique M. Dumont. La carte de rusticité des plantes ne doit cependant pas être considérée comme une garantie de survie des plantes, car si, globalement, le climat se réchauffe, la météo, elle, peut jouer des tours au jardinier qui n'est pas à l'abri d'un gel tardif, d'une période de chaleur prolongée au milieu de l'hiver ou d'un faible couvert neigeux. J'ai remarqué que chaque fois qu'on a eu des printemps hâtifs, on a eu des mois de mai dégueulasses, observe l'expert. Même un horticulteur d'expérience comme Bertrand Dumont prend ses précautions. je n'ai pas changé mon calendrier des semis. J'ai gardé exactement les mêmes dates parce que je n'ai aucune idée où je m'en vais. C'est là où les changements climatiques vont être compliqués, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend. C'est pourquoi il a pris l'habitude de se fier à la température du sol et non à la date du calendrier ou à la température de l'air pour déterminer le moment de plantation, quitte à patienter quelques jours de plus. Si je n'ai pas de 14 à 18 degrés dans le sol, je ne plante pas mes tomates, parce que sinon, elles vont subir un choc thermique et elles vont arrêter de pousser. Et ça va leur prendre 10 jours pour repartir. Le plus important chez une plante, ce sont les racines, rappelle Bertrand Dumont. La carte des zones de rusticité demeure essentiellement un guide dont il faut se méfier un peu. Pour une région zonée 5, il est généralement recommandé de choisir des végétaux adaptés à la zone 4. C'est un conseil que je donne, mais qui n'est pas suivi, fait remarquer M. Dumont. Le monde agricole. Parfois, l'envie d'essayer de nouvelles plantes prend le dessus sur la sagesse et la prudence, admet Louis Lévesque, président de la Société d'horticulture et d'écologie, SHE, de Saint-Félicien, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cet égard, le réchauffement climatique et les changements de zone de rusticité ouvrent de nouveaux horizons. Les passionnés comme moi ont toujours envie de découvrir de nouvelles plantes, mais on essaie d'être raisonnable. Cette évolution du climat a déjà des effets sur le monde agricole. Louis Lévesque, qui est aussi agronome et ancien producteur agricole, signale que la culture du maïs-grain, autrefois réservée au sud du Québec, commence à faire son chemin dans les champs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'opposé, la réduction du couvert de neige risque d'avoir des effets sur la culture de la luzerne, une plante fourragère vivace cultivée dans la région et qui, dit-il, produit du foin de haute qualité riche en protéines. Mais quand la couche de neige est insuffisante, elle ne réussit pas à survivre à l'hiver. Le fait de ne plus avoir de couvert de neige, ça va faire qu'on ne pourra plus la cultiver. Ce sont des défis pour les agriculteurs. Le milieu agricole redoute la baisse des précipitations à des moments stratégiques pendant la belle saison et les gels en pleine période de floraison qui anéantissent les espoirs de récolte. Les agriculteurs devront s'adapter. Le réchauffement climatique a des impacts visibles dans d'autres sphères. La faune migre progressivement vers le nord. La présence au Québec des dindes sauvages et des opossums en témoigne. Il attire aussi des insectes indésirables venus du sud, comme la grille du frêne ou le longicorne asiatique. On n'avait pas eu la grille du frêne, mais il est maintenant rendu à la tuque. Ce n'est pas loin du lac Saint-Jean, souligne Louis Lévesque. Même si le climat s'emballe, la nouvelle carte des zones de rusticité des plantes ne devrait pas présenter des changements majeurs au Québec, croit John Pedler. On peut toutefois s'attendre à des mises à jour plus fréquentes de cette carte à l'avenir, d'autant que les changements climatiques devraient s'accélérer au cours des prochaines décennies, dit-il. C'était « Adapter son jardinage à la réalité des changements climatiques », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir.
Olivier Cumide, une affection particulière. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Homme de lettres et de théâtre, Olivier Cumide écrit et met en scène professionnellement depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre en 2002, où il reçoit une formation en écriture dramatique. En 2003, il cofonde la compagnie de création Trois Tristes Tigres. Il assume également la direction artistique d'Espace Libre, de 2006 à 2010, et du Théâtre de Catsou, 2016 à 2023. Jusqu'à maintenant, on lui doit deux romans et plus d'une quinzaine de pièces, dont « Moi dans les ruines rouges du siècle », portée à la scène pour la première fois en 2012 et reprise cet hiver du 28 février au 30 mars chez Duceppe. Lecteur invétéré, il nous livre quelques-unes des œuvres importantes qui l'ont remué. Les livres accompagnent Olivier Cumide depuis longtemps, révélant leur pleine envergure lors de l'année de ses 10 ans qu'il passe sur le voilier de ses parents, naviguant du lac Champlain aux Antilles. À l'occasion de cette odyssée de plusieurs mois, il fait la connaissance de nombreuses œuvres, citons celle de Jules Verne. Le dramaturge croit d'ailleurs que la découverte de ce florilège de textes constitue les prémices de son désir pour l'écriture. Il tient un journal de bord où il inscrit sa propre aventure maritime, sorte de récit de voyage à hauteur d'enfant. Sa période de jeunesse recèle moult événements emblématiques, notamment le tête-à-tête avec le classique britannique « Sa Majesté des Mouches » de William Golding, livre mettant en scène un groupe de jeunes garçons devant assurer leur survie sur une île déserte. Même chose pour « Tintin et le Lotus bleu », imprégné définitivement dans la mémoire de notre invité. Citation « Mon père et moi étions dans sa Renault 5 et elle s'est arrêtée devant la librairie Champigny sur Saint-Denis », raconte Cumide. Il m'avait dit « Attends-moi un instant » et m'avait ramené la bande dessinée. Je me souviens de cette espèce de vase chinois, d'un dragon, et je dis souvent que c'est ma première rencontre avec l'art avec un grand A. Il y avait eu comme un choc esthétique. Fin de citation. Preuve qu'on ne sait pas toujours l'impact que peut avoir un livre dans l'existence d'un enfant. Étonnement, émerveillement. Évidemment, l'âge adulte opère sa part de secousse littéraire chez le metteur en scène, nommant L'adversaire d'Emmanuel Carrère, lu en une nuit, l'histoire véridique de l'incroyable supercherie d'un meurtrier. Ce dernier, pendant 18 ans, réussit à faire croire à sa famille qu'il pratique la profession de médecin, alors qu'en fait, il n'a aucune occupation. Le roman « Le bruit et la fureur » de William Faulkner, écrivain nobélisé en 1949, figure de même au panthéon des titres sublimes de la bibliothèque d'Olivier Cumide. L'originalité de ce livre, qui présente la trajectoire d'une famille sur 3 générations, tient dans le souffle de l'écriture, alternant les narrateurs et établissant le texte dans une structure non linéaire. Puis, il y a « Ulysse » de James Joyce, œuvre consacrée monument, mais que peu de gens sont parvenus à traverser en entier. Citation « Ça a été ardu, ça a dû me prendre 9 mois pour le lire, mais parfois, de l'effort peut naître le plaisir », exprime le lecteur chronique. Ce n'est vraiment pas une lecture facile, mais j'avais l'impression d'écrire en lisant. Fin de citation. Fréquenter de telles œuvres ne laisse effectivement pas indemne, mais notre invité ne cherche pas à être épargné. Il possède 1000 et 1 raisons de lire et l'exploration de différents mondes en est une. Le voyage, pareillement, et pour vivre le dépaysement, il aime se plonger dans les récits de voyage, participant à l'expédition par procuration. Il parle avec un vif intérêt de « Longue marche » de Bernard Olivier, un ex-journaliste qui, dans la 60aine, et à cause du profond chagrin survenu à la suite du décès de sa femme, décide de parcourir la route de la soie à pied. Prochain périple, celui-ci à travers le temps, « Les années » d'Annie Ernaux, se positionne parmi ses livres importants, lui reconnaissant une part d'ascendance dans l'écriture d'un de ses romans à lui, « Le vieux monde derrière nous », paru chez Nomade. Citation « La littérature me permet de tenter d'être moi », fin de citation, déclare-t-il. Les synchronicités heureuses. L'influence de « Moi dans les ruines rouges du siècle », chez Leméac, qui est monté ces jours-ci sur les planches du Théâtre du Cep, pièce pour laquelle le dramaturge endosse aussi la mise en scène, lui vient quant à elle de la vie de son ami Sacha Samar, acteur d'origine ukrainienne qui joue d'ailleurs son propre rôle. Citation « Je prenais bien conscience qu'il y avait là une histoire extraordinaire d'un homme qui a à peu près mon âge et qui a vécu dans cet autre monde qu'était le bloc communiste », explique l'auteur. Ça a été le plus beau cadeau qu'on m'a fait parce que j'ai dit à Sacha « Maintenant, je vais tenter d'écrire quelque chose, mais j'ai besoin de me l'approprier. Est-ce que tu acceptes que je parte avec ce trésor que tu m'as confié et que j'en fasse ma pièce ?» Et il a accepté très spontanément. Fin de citation. De ces rencontres, que l'on croirait presque des rendez-vous, Olivier Cumide s'en abreuve insatiablement. Ce fut le cas avec les romans illustrés de Lamia Ziadé, une franco-libanaise aux textes émouvants et qui crée de splendides dessins à l'aquarelle. Ils prennent place avec certitude dans sa liste des œuvres de grande richesse. Encore, il a récemment déniché « Bélazar », écrit par Jérôme Chantreau. L'auteur et professeur apprend le décès à 18 ans d'un de ses anciens étudiants, pourvu d'un magnétisme singulier, dans une arrestation policière nébuleuse. Il entreprend donc des recherches personnelles, investiguant auprès de sa famille afin de comprendre ce qui s'est passé et d'éclaircir les circonstances mystérieuses entourant cette mort. Adorant les livres, Olivier Cummide en offre souvent à son entourage, question de partager ce qui lui a plu ou ému. Quelques privilégiés ont pu recevoir un roman graphique de Frédéric Peters, « Pilule bleue », qui aborde avec émotion et humour sa relation avec son amoureuse atteinte du sida. Ayant un attrait marqué pour les bandes dessinées, notre libraire d'un jour n'hésite pas non plus à faire cadeau de l'album « Ici » de l'artiste Richard Maguire. Citation « C'est fascinant », estime-t-il. « Ce sont des doubles pages qui représentent la maison d'enfance de l'auteur et il ouvre des fenêtres spatio-temporelles à travers l'histoire de l'humanité où il y a tout un jeu d'échos qui se crée. C'est une invention formelle fabuleuse. » Fin de citation. Pour trouver tous ses livres, il visite souvent ses libraires, beaucoup trop selon son portefeuille, métier qu'il considère avec déférence. Thomas Dupont-Buis, chez Gallimard, Jonathan Vartabédian au Square, Christian Huron à l'Arlequin, Alex Bergeron et Éric Blackburn au Port de Tête, Léo Loisel chez Un Livre à Soi, Roger Chénier à l'Écume des Jours, pour ne nommer que ceux-là. Il glane avec compulsion toutes les suggestions, comme ce qu'il est en train de lire, « Croire aux fauves » de Nastassia Martin, conseillée par une amie. Une anthropologue survit en pleine Sibérie à l'agression d'un ours et amorce une réflexion sur ce bouleversant face-à-face. Profusément, les bouquins attendent leur tour d'être ouverts chez Olivier Cummide. Citation « J'adore avoir des piles de livres non lus. Je pense que j'ai un an d'autonomie. » Fin de citation, évalue-t-il. Qu'à cela ne tienne, il n'y en a jamais assez. C'était Olivier Cummide, une affection particulière. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.